Que se passerait-il si, genre demain matin, les logiciels d'architecture et d'ingénierie arrêtaient soudainement d'attendre nos clics?
Ah ouais, ça ferait un sacré vide dans les bureaux d'études.
Ben, imagine, s'ils commençaient par exemple à dessiner les plans de plomberie, à vérifier les normes de sécurité, ou même optimiser la structure d'un bâtiment de manière totalement autonome.
Pendant que l'équipe technique va se chercher un café, en gros.
Exactement. Et le truc, c'est que ce scénario, c'est plus du tout de la science-fiction ni, tu sais, une vague promesse lointaine. Le mois prochain, c'est très exactement la réalité qui va atterrir sur les postes de travail de toute l'industrie.
Ouais, et pour le coup, c'est un changement de paradigme qui est juste fondamental. Jusqu'à présent, un modèle 3D, c'était un réceptacle passif.
Complètement.
Toute l'intention, toute l'intelligence et l'exécution, ça provenait de l'humain derrière l'écran, tu vois. La machine, elle faisait que bêtement exécuter des commandes binaires. Mais ce que nous allons examiner aujourd'hui, bah, ça marque vraiment la fin de cette ère de passivité.
Donc, bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravie d'être là. La date d'aujourd'hui, c'est le 24 mars 2026.
On y est presque.
Ouais, et devant nous s'étale une véritable montagne de documents captivants. On a des rapports prospectifs de l'industrie, des tutoriels techniques ultra détaillés qui viennent de l'Autodesk University 2025.
Des trucs pointus. Ouais.
Très pointu, des grilles tarifaires confidentielles aussi, des webinaires et pas mal de discussions passionnantes tirées de blogs de la communauté.
Y a de quoi faire.
Oh oui, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, il est super clair, c'est d'aider ceux qui nous écoutent, qu'ils soient architectes, ingénieurs, responsables informatiques ou juste fascinés par la tech en fait.
C'est ça.
On veut les aider à comprendre les véritables enjeux de la série logicielle Autodesk 2027, dont le déploiement est imminent pour le mois d'avril.
Et la masse d'informations, elle est juste vertigineuse, parce que, il s'agit absolument pas d'un simple correctif annuel, c'est pas juste une mise à jour mineure.
Non, pas du tout.
Toute la documentation pointe de manière unanime vers une refonte totale de l'écosystème de la donnée géométrique, et surtout vers l'intégration massive de ce qu'on appelle l'IA agentique.
Ok, décortiquons tout ça. L'intelligence artificielle passe littéralement à la vitesse supérieure là. Elle abandonne son statut de gadget textuel ou, tu sais, de simple fenêtre de discussion.
Fini le petit chatbot sur le côté de l'écran.
Voilà, ça devient un véritable collègue de travail virtuel. Mais pour saisir l'ampleur de ce séisme prévu pour 2027, je pense qu'il faut d'abord soulever le capot technique.
Ouais, allons-y.
Nos sources, elles insistent lourdement sur un acronyme bien précis, le protocole MCP. Du coup, comment ce standard permet-il soudainement à une IA de communiquer avec des logiciels de conception aussi denses que Revit ou FusionReb?
Bah, en fait, le modèle Context Protocol, donc le MCP, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette architecture.
D'accord.
Pour utiliser une image concrète, la communauté tech le décrit très souvent comme le port USB-C de l'intelligence artificielle.
Oh, j'adore cette analogie. Le port USB-C, carrément.
Ouais, parce que avant l'émergence du MCP, si un développeur voulait qu'un grand modèle de langage, un LLM quoi, interagisse avec un logiciel de CAO pour modifier une maquette, il devait coder un connecteur sur mesure.
Un truc super rigide, j'imagine.
Exactement. Extrêmement rigide et surtout hors de prix à maintenir. Le MCP, bah, il vient standardiser tout ça.
D'accord.
Il définit en gros une langue commune qui permet à n'importe quelle application de fournir son contexte, ses données et ses outils d'édition à un assistant virtuel, et ce, de manière fluide et complètement universelle.
C'est précisément ce qui transforme l'assistant Autodesk, en fait. Parce que dans les versions précédentes, cet assistant, il ressemblait davantage à une barre de recherche glorifiée, quoi.
Ouais, c'était utile pour fouiller dans les manuels d'utilisation, on va dire.
C'est ça. Mais avec la série 2027, le déploiement de serveurs MCP spécifiques change complètement la donne. Les sources qu'on a lues, elles mentionnent le Revit MCP Server, le Fusion Data MCP ou encore le Model Data Explorer.
Ouais, c'est du lourd.
L'assistant, il devient un acteur à part entière. Et d'ailleurs, il y a cet exemple frappant tiré d'une session de l'Autodesk University. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
Celui avec le bâtiment complexe.
Oui, un démonstrateur qui demande à voix haute à l'IA de générer des niveaux de toit pour un bâtiment. Et dans la foulée, direct, il lui demande de chercher les conventions de nommage en vigueur sur le web.
Ouais, c'était bluffant.
Sous les yeux du public, genre en direct, l'IA rassemble ces infos et crée automatiquement toutes les vues mécaniques correspondantes directement dans l'arborescence de Revit.
Et c'est là qu'on voit bien. Ce passage de l'Autodesk Dimiversity, il illustre à la perfection ce qu'est une IA agentique.
C'est clair.
Elle se limite plus à te suggérer du code ou un bout de texte, tu vois. Elle orchestre carrément des flux de travail complets en enchaînant des API.
Elle prend des initiatives, en fait.
Exactement, pour accomplir un objectif complexe. Cette capacité d'orchestration, elle prend tout son sens quand on observe les avancées fulgurantes du design génératif, particulièrement dans le secteur manufacturier. C'est fou!
Ah oui, les cas pratiques documentés dans nos sources, c'est hallucinant.
Vas-y, raconte.
Prenons l'écurie Stewart Haas en NASCAR. Ils ont utilisé le design génératif pour alléger une pédale de frein. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'enlever de la matière au hasard, hein.
Non, bien sûr, c'est calculé.
L'ingénieur humain y définit d'abord les contraintes de base, genre la force maximale de freinage du pilote, les forces G encaissées dans les virages, et puis la limite d'élasticité de l'alliage utilisé.
Les vraies lois de la physique, quoi.
Exactement. Et à partir de là, l'algorithme y génère des millions d'analyses par élément fini pour littéralement sculpter la pièce en retirant chaque gramme superflu.
C'est incroyable. Et le résultat visuel est toujours dingue.
Ouais, le résultat, ça ressemble à une espèce de structure osseuse extraterrestre. Mais mathématiquement, c'est parfait.
Il n'y a pas que le NASCAR, hein. On a aussi le cas de la firme Newton Engineering dans les docks.
Ah oui, avec la roche martienne.
C'est ça. Ils ont utilisé un processus quasi similaire pour concevoir une capsule, et cette capsule, elle est destinée à ramener des échantillons de roches martiennes sur Terre.
Rien que ça.
Rien que ça, ouais. Ou encore, tu as le partenariat intégré à Fusion avec l'entreprise Cloud NC. Eux, ils parviennent carrément à réduire le temps de programmation des parcours d'outils d'usinage de 95%.
95%, c'est absurde.
C'est un renversement total des rôles traditionnels. L'ingénieur, il dessine plus la solution finale de ses propres mains, tu vois. Il devient une sorte de directeur algorithmique.
Un directeur algorithmique, ouais, j'aime bien le terme.
Il pose le problème, l'IA gère l'immense complexité mathématique pour générer des milliers d'options viables, et à la fin, l'humain sélectionne et raffine le meilleur résultat.
C'est une analogie parfaite. En gros, c'est un peu comme passer d'un vieux dictionnaire interactif à un stagiaire hyperactif et surdoué à qui on donnerait un bureau et les clés de l'entreprise.
C'est exactement ça, ouais.
Mais du coup, en me disant tout ça, il y a une question évidente qui m'est venue à l'esprit.
Je t'écoute.
Si on donne les clés de l'entreprise à une entité virtuelle autonome, genre avec la capacité de modifier des maquettes entières, de supprimer des éléments ou même de valider des plans de fabrication,
Ouais, tu veux en venir.
N'est-ce pas le pire cauchemar imaginable pour un responsable de la sécurité informatique?
Ah bah si. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la véritable prouesse technologique d'Autodesk et pour cette série 2027, c'est peut-être pas la puissance de l'IA elle-même.
Ah bon? C'est quoi alors?
La vraie révolution, c'est l'infrastructure de confiance, totalement invisible, qui a été bâtie autour d'elle pour la rendre acceptable en milieu professionnel strict.
D'accord, l'aspect sécuritaire quoi.
Exactement. Parce que le fameux protocole MCP tel qu'il a été conçu initialement par la communauté open source, il comportait une faille majeure pour le monde de l'entreprise.
Laquelle?
L'enregistrement dynamique des clients.
Attends, pour traduire ça simplement, ça voulait dire qu'à peu près n'importe quel agent virtuel pouvait frapper à la porte du logiciel, s'inventer une identité temporaire et commencer à fouiller dans les données?
Exactement. C'est le principe même de l'open source, tu sais, réduire la friction au maximum pour encourager l'expérimentation rapide.
Ouais, c'est bien pour les devs dans leur garage, ça.
Voilà. Mais dans une agence d'architecture qui conçoit, je sais pas, un hôpital ou dans un bureau d'études de la défense, cette permissivité, elle est juste impensable. Il est vital de pouvoir auditer chaque modification.
C'est logique.
C'est pour ça qu'Autodesk a pesé de tout son poids pour imposer un nouveau standard au sein du MCP, ce qu'ils appellent le CIMD, pour Client Identifier Metadata Documents.
Ok, encore un acronyme. Et concrètement, ça fait quoi bien?
Concrètement, ça abolit complètement les identités temporaires. Chaque IA qui veut interagir avec les données doit désormais posséder une identité cryptographique stable, préenregistrée et validée.
Ah, je vois. D'ailleurs, nos notes, elles mentionnent également un autre acronyme lié à cette sécurisation, les SSA ou Secure Service Accounts. Comment ça s'articule avec le reste, ça?
Alors, les SSA, c'est la couche d'exécution, en fait.
Ok.
Lorsqu'un agent IA doit effectuer une tâche longue en arrière-plan, genre analyser des milliers de plans pendant la nuit, il ne peut pas demander à un humain de taper un mot de passe toutes les 5 minutes.
C'est sûr, ce serait ridicule.
Donc, les SSA permettent une authentification de serveur à serveur en utilisant une cryptographie asymétrique très avancée.
Wow, ok.
Les machines, elles communiquent entre elles de manière totalement chiffrée, sans aucune interaction humaine, tout en laissant une trace indélébile de chaque action.
C'est hyper robuste.
C'est d'ailleurs ce niveau d'exigence maniaque sur la traçabilité qui a permis à Autodesk de décrocher la norme ISO 4201.
Qui est la certification de référence mondiale pour le déploiement responsable d'un système d'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas.
C'est tout à fait ça.
Bon, je vais quand même me faire l'avocat du diable un instant.
Vas-y.
Toute la beauté du mouvement open source, elle réside dans sa vitesse d'exécution et sa flexibilité, non? Est-ce qu'en imposant ces lourdes règles de gouvernance d'entreprise avec, tu sais, ces vérifications d'identité biométrique virtuelle et ces barrières cryptographiques, on vient pas un peu casser la dynamique et ralentir l'innovation?
C'est une objection super légitime. La friction, ça ralentit toujours la vitesse pure, c'est un fait.
Bah oui.
Mais il faut bien comprendre que dans des secteurs comme la construction ou l'aérospatiale, ben, cette friction, c'est en réalité une fondation indispensable.
D'accord.
Il suffit d'imaginer les conséquences d'un agent IA non identifié qui altérerait par erreur les plans structurels d'un terminal d'aéroport, par exemple.
Ah ouais, la catastrophe.
Le risque de corruption des données, ou pire, d'espionnage industriel, serait colossal. Sans ces garde-fous extrêmement stricts, aucun grand cabinet n'accepterait de déployer ces outils sur des projets réels.
C'est imparable, vu comme ça.
L'innovation, si elle n'est pas gouvernée et sécurisée, ça reste une simple expérience de laboratoire inutilisable à grande échelle.
Ouais, la sécurité doit être irréprochable avant même de songer à la productivité, ça fait sens. Et justement, maintenant qu'on a établi que ce socle il est blindé, observons comment ça se traduit concrètement dans le quotidien des pros.
Allons-y.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en parcourant les feuilles de route de la série 2027, on remarque une tendance très, très nette.
Laquelle?
Les nouveautés les plus célébrées, c'est pas des fonctions tape à l'œil, genre des nouveaux boutons brillants. C'est plutôt l'éradication systématique de frustrations historiques qui empoisonnent les équipes depuis des décennies. En fait, le thème central de cette mise à jour, ça semble être la fin des tâches ingrates.
C'est une excellente façon de résumer les choses, je trouve. Prenons l'exemple emblématique de Revit 2027.
Ah oui, parlons-en de celui-là.
Quand on analyse les retours de la communauté BIM, la plainte numéro 1, ça n'a jamais été le manque d'outils de dessin complexes.
Non, c'est quoi taper?
La frustration majeure, c'est le temps d'attente.
Ah, les fameux chargements interminables.
Voilà. L'ouverture d'un modèle lourd, ça peut figer un ordi pendant de longues minutes. Eh bien, la nouvelle version intègre enfin ce qu'ils appellent l'Open Model Performance, qui promet une chute drastique de la consommation de mémoire vive.
C'est génial, ça. Et il faut absolument qu'on parle du nouveau moteur graphique. Les termes Hydra et OpenUSD y reviennent en boucle dans les documents techniques qu'on a vus.
Ouais, c'est une grosse avancée.
Pour mystifier un peu pour notre audience, OpenUSD, ça a été inventé par les studios Pixar.
Rien que ça?
Ouais, c'est devenu une sorte de HTML de la 3D. Un standard qui permet de structurer les données visuelles de manière tellement optimisée que des scènes gargantuesques peuvent s'afficher instantanément.
Et dans Revit 2027, ça signifie qu'il est enfin possible d'activer des boîtes de coupe complexes sur des modèles fédérés massifs.
Sans que la navigation ne se transforme en diaporama saccadé, enfin.
Exactement. C'est un gain de confort nerveux inestimable pour ceux qui font de la coordination multidisciplinaire toute la journée.
C'est clair. Et l'évolution d'AutoCAD 2027, elle s'inscrit exactement dans cette même logique de réduction des frictions, particulièrement sur l'aspect collaboratif.
Ouais, avec une commande très attendue.
La commande checkout. Historiquement, travailler à plusieurs sur un même fichier DWG, c'était une source de conflits constants.
Les fameux fichiers écrasés par le collègue.
L'horreur. Et cette nouvelle fonction, elle permet à un dessinateur d'isoler une géométrie spécifique, de la verrouiller pour travailler dessus en parallèle, puis de fusionner ses modifs sans aucun risque d'écraser le travail de quelqu'un d'autre.
Et en plus de ça, l'IA vérifie désormais en temps réel si les calques utilisés respectent la charte graphique de l'entreprise. C'est magique.
Ce vent d'automatisation, il souffle vraiment sur toutes les disciplines.
Ouais, regarde dans Civil 3D.
Ah oui, vas-y.
Le machine learning ou apprentissage automatique, il est mis à contribution pour réaliser des analyses de régression horizontale.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire trouver le tracé routier optimal à partir de relevés topographiques bruts. Avant, c'était une tâche mathématique éreintante pour un humain.
Impressionnant. Et du côté d'Inventor, on voit apparaître les code blocks. C'est super fascinant parce que ça démocratise la programmation.
Complètement. Au lieu d'écrire des lignes de code
avec Motion Maker.
Oh oui, ça c'est fou.
L'animateur définit juste une trajectoire et l'IA génère de manière complètement autonome la mécanique complexe d'un cycle de marche réaliste.
Ça fait gagner un temps fou. L'artiste gagne des heures de travail super laborieux et peut se concentrer sur l'essentiel, à savoir donner de l'attitude et de l'émotion au personnage. Et puis, il y a la prise en charge du protocole Wayland, pour Linux, aussi.
Ah oui, bon, à savoir, pour les puristes. Et en fait, toutes ces améliorations individuelles par logiciel, elles convergent vers une transformation plus vaste de l'écosystème cloud.
Qui est annoncé pour mars 2026 d'ailleurs.
C'est ça, le renommage de l'Autodesk Construction Cloud en Autodesk Forma. Et c'est pas juste un petit coup de pinceau sur le logo, hein.
Ah non, c'est une restructuration profonde de la donnée. Revit 2027 devient officiellement un Forma Connected Client.
Ce qui signifie, en termes simples, que l'information n'est plus emprisonnée dans le fichier source.
Fini les silos.
Voilà. Grâce à l'AEC Data Model, les données géométriques et paramétriques d'un bâtiment, elles deviennent accessibles sur le cloud, indépendamment du logiciel.
Donc, on peut extraire des nomenclatures de matériaux pour alimenter, je sais pas, un tableau de bord financier ou un jumeau numérique sans jamais avoir besoin d'ouvrir Revit ou même de posséder une licence locale.
C'est la mort annoncée du travail en silo, comme tu dis. C'est fantastique.
Par contre, il y a un gros mais.
Ah.
Ouais, parce que traiter ces gigantesques bases de données unifiées, propulser ces nouveaux moteurs graphiques ultra fluides et faire tourner des agents d'IA en permanence, bah, ça requiert une puissance de calcul démentielle.
Ah, la facture matérielle.
Exactement. Et ça nous amène brutalement à la réalité opérationnelle et financière que vont subir les entreprises. L'innovation, elle a un coût matériel très, très lourd.
C'est vraiment la douche froide des configurations requises. Les documents montrent que la série 2027 impose la migration vers le framework logiciel .NET 8.
Déjà, ouais.
Mais plus critique encore, pour espérer faire tourner correctement le nouveau moteur graphique basé sur OpenUSD, la recommandation officielle, elle exige désormais des cartes graphiques embarquant au moins 8 gigas de VRAM.
Aïe.
Ouais. Les parcs de stations de travail vieillissants, ils vont juste s'effondrer sous cette charge. Mais le véritable choc pour les équipes informatiques, c'est ce que la documentation appelle la politique des 5 versions.
C'est probablement l'annonce la plus sensible de ce cycle, sincèrement.
Raconte.
30 jours après la disponibilité de Revit 2027, donc c'est-à-dire autour du mois de mai 2026, l'accès à l'infrastructure cloud va être drastiquement purgé.
Purgé, carrément.
Ouais. Seule la version actuelle et les 5 versions précédentes seront supportées. Ça signifie que tous les modèles collaboratifs qui sont hébergés sur Revit 2021 ou des versions antérieures seront tout simplement bloqués.
Waouh ! Il faut réaliser le niveau de panique que ça peut engendrer dans les agences.
C'est clair.
Prenons l'exemple d'une agence d'architecture qui a remporté un vaste projet d'hôpital public en 2019. Et ils ont initié ça sur Revit 2020. Ces projets, tu sais, ça s'étale sur des années.
Bien sûr, c'est très long.
Du jour au lendemain, s'ils n'ont pas anticipé cette politique, bah, toute l'équipe perd l'accès à la maquette centrale sur le cloud.
C'est un cauchemar logistique absolu.
Mais totalement. Il faudra rapatrier les modèles sur des serveurs locaux, ou pire, tenter une migration périlleuse vers une version récente en plein milieu de la phase d'exécution.
Et ça, c'est hyper risqué.
Manœuvre commerciale hyper agressive pour forcer l'obsolescence et obliger les clients à racheter des licences neuves.
C'est la réaction naturelle, c'est sûr. Mais si l'on relie cela à une vision plus globale, particulièrement au regard de ce que nous avons décortiqué concernant la sécurité et l'IA.
Ouais.
Ben, le constat est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est pas uniquement une décision commerciale, loin de là.
Ah bon ?
Maintenir des serveurs cloud qui sont capables de faire tourner des architectures logicielles datant de plus de 6 ans, c'est une faille de sécurité béante.
Ah, je vois le lien avec tout à l'heure.
Voilà. Les versions de 2020 ou 2021, elles reposent sur des fondations qui sont juste incapables de gérer les nouveaux standards cryptographiques, comme les RSSA ou le protocole d'identité SAMD qu'on a évoqué.
D'accord, elles sont obsolètes technologiquement.
Exactement. Conserver ces vieux serveurs en ligne, ça équivaudrait à laisser la porte d'entrée grande ouverte aux cyberattaques. Le coût humain et logistique de la migration est colossal, oui. Mais une brèche de données sur des projets d'infrastructure critiques,
ça signerait l'arrêt de mort de l'entreprise.
Tout simplement.
Et pourtant, la pilule financière, elle reste incroyablement dure à avaler pour les dirigeants d'agence. Parce que les documents tarifaires qu'on a épluchés, datés de janvier 2026, bah, ils dévoilent une stratégie implacable.
Ah oui, les prix, ça pique.
On note une augmentation d'environ 10% sur les abonnements dans des marchés majeurs comme l'Asie du Sud-Est et l'Inde.
Et c'est pas tout.
Non, plus douloureux encore, c'est la fin de la tolérance sur les licences réseau. Les entreprises qui utilisaient encore des licences multi-utilisateurs flottantes, elles sont contraintes de les convertir au ratio de 2 licences utilisateurs nommées.
Ce qui est souvent très désavantageux pour les équipes qui travaillent en rotation, tu sais.
Exact. Et comme si ça suffisait pas, Les remises historiques qui étaient accordées lors des renouvellements de contrats ont été presque intégralement supprimées.
Et il y a une autre dimension tarifaire qui est cruciale, qui est liée directement à l'utilisation de l'IA, c'est la facturation à la consommation.
Les meter charges, c'est ça, hein ?
Ouais, sur la plateforme Cloud APS. Autrefois, l'automatisation logicielle, elle était incluse. Désormais, chaque fois qu'un agent virtuel traduit un modèle complexe ou génère des données massives, le client paye à l'acte.
Ah ouais, donc chaque clic ou presque peut coûter de l'argent.
Ouais, mais c'est logique technologiquement parlant. L'IA agentique, elle fait pas que consulter une base de données, hein.
Non, elle travaille vraiment.
Elle sollicite des grappes entières de processeurs graphiques dans des fermes de serveurs. Ça consomme une énergie phénoménale. Un modèle de facturation forfaitaire, bah ça conduirait n'importe quel éditeur à la faillite.
Je comprends, mais du côté des clients, c'est l'asphyxie totale. Nous avons lu avec beaucoup d'attention le blog Between the Lines de Shanerley.
Très bon blog, au passage.
Noté. Il décrit avec beaucoup d'empathie la situation complètement atteignable des directeurs informatiques en ce moment. Ils sont coincés dans une boucle infernale.
C'est-à-dire ?
Bah, ils doivent auditer frénétiquement les anciens comptes pour respecter cette fameuse règle des 5 versions. Ils doivent commander de nouvelles cartes graphiques super coûteuses. Et en plus, ils doivent justifier chaque mois à leur direction des factures cloud qui sont variables et imprévisibles liées à l'IA.
Ouais, c'est le stress permanent.
Tout le poids financier de cette marche forcée vers l'innovation, il repose finalement sur les épaules des professionnels.
C'est le prix, très souvent brutal, d'un changement de paradigme.
C'est sûr.
Les logiciels de la série 2027, ils offrent des capacités d'optimisation et d'automatisation qui sont dignes de la science-fiction. Mais ils exigent en retour une rigueur opérationnelle quasi militaire.
Sans concession.
Les agences qui refuseront de nettoyer leur processus, de standardiser leur version ou d'investir dans le matériel, bah elles verront leur marge s'évaporer sans jamais profiter des incroyables gains de productivité qui sont promis.
C'est marche aux crèves. Toute cette pression financière, technique et matérielle, ça nous ramène finalement à la question centrale de cette série 2027, la place de l'humain au milieu de tout ça.
Grande question.
Pour récapituler un peu cette exploration foisonnante qu'on a faite pour notre audience, la sortie d'avril 2026, c'est pas une mise à jour, c'est un vrai point de bascule.
Totalement.
Nous voyons l'aboutissement du concept de conception intelligente. Le protocole MCP, il branche des cerveaux artificiels directement au cœur de nos outils de travail. Autodesk format bat les murs entre les différentes étapes d'un projet. Et la machine, elle exige désormais une puissance matérielle et une sécurité sans aucun compromis.
L'OTIPassif, il est mort. Le partenaire virtuel autonome est né.
Magnifique résumé.
Absolument, et cette naissance, elle redéfinit complètement les règles du jeu. D'ailleurs, si on s'arrête un instant sur l'image d'ensemble, ça soulève une ultime question que je trouve particulièrement provocatrice pour l'avenir de nos professions.
Ah, laquelle ?
Si, dès demain, cette IA agentique est capable de vérifier toute seule la conformité légale d'un plan d'étage, si elle peut calculer l'épaisseur optimale d'une poutre en acier au gramme près ou générer des chemins d'usinage parfaits pendant qu'on dort,
ouais.
La valeur intrinsèque d'un architecte ou d'un ingénieur, elle va muter de manière irréversible.
C'est-à-dire ?
Sa compétence première, elle résidera plus dans la dextérité de ses clics de souris ou dans sa capacité à mémoriser des normes super fastidieuses. La véritable valeur d'un professionnel, son génie même, ça se mesurera exclusivement à l'intelligence, à l'audace et à la subtilité des questions et des contraintes qu'il sera capable de soumettre à la machine.
Waouh ! La qualité des questions, en fait.
Exactement. La technique pure, elle est désormais sous-traitée à l'algorithme. Il ne nous reste plus que la vision. Sommes-nous prêts à endosser ce rôle de chef d'orchestre ?
C'est une réflexion super profonde pour clôturer notre analyse. La transition d'exécutant à visionnaire, elle s'annonce aussi passionnante que complexe.
C'est certain.
Un immense merci d'avoir partagé ce moment de décryptage avec nous aujourd'hui. L'exploration de ces sources démontre que ce fameux stagiaire virtuel a désormais les clés de l'entreprise en main et qu'il attend patiemment d'être dirigé avec intelligence.
Et c'est à nous de jouer.
Gardons bien cette responsabilité en tête la prochaine fois qu'une maquette numérique s'ouvrira sur l'écran. À très bientôt pour une nouvelle plongée exigeante au cœur des bouleversements technologiques.